Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Paul Chemetov, votre nuit, Paul Chemetov. Rebonsoir, Paul Chemetov.
Rebonsoir, Philippe Garvey.
Alors, c'est à l'occasion de la parution, donc, chez Arléa, d'un livre de conversation, 7 conversations au total, avec Frédéric Laine, livre qui a pour titre Paul Chemetov, être architecte, point final, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. L'architecte célèbre que vous êtes, Paul Chemetov, à qui l'on doit donc des centaines et des centaines d'habitations, de logements en tout cas, de grands travaux aussi, des commandes publiques telles que le ministère des Finances à Paris, le nouveau Forum des Halles, alors nouveau, ancien, nouveau, voilà, à Paris également, la grande galerie, la merveilleuse grande galerie du Muséum d'Histoire Naturelle, donc au Jardin des Plantes, toujours à Paris. Cet architecte célèbre, donc Grand Prix National d'Architecture, se présente encore, donc on l'a dit en début de nuit, à des concours, toujours. C'est-à-dire que, comment ça se passe, commandes publiques, vous voyez, il y a un appel, etc. Donc on arrive incognito, on ne signe pas, ou au contraire on signe.
Oui. Enfin, c'est cette invention des concours qui est récente, qui a succédé au concours de Beaubourg, Beaubourg, c'est un concours qui a vu près de 800 participants, gagné grâce à un jury quand même assez de très bonne qualité, Prouvé, Niemeyer, Johnson, Bordas, qui était un grand fonctionnaire remarquable, a été gagné par deux jeunes gens, Renzo Piano et Richard Rogers. Et on a été persuadé que, puisque là, un très bon projet avait été décelé, que ce système allait permettre toujours de déceler les meilleurs projets. Sauf que Beaubourg était un concours ouvert. Les concours aujourd'hui sont sur présélection. C'est-à-dire vous envoyez votre demande de concours avec des références, et ces références sont parfois très curieuses. Avez-vous construit dans les 3 dernières années 5 bâtiments du même type ? Donc on sait que c'est le portrait robot de quelqu'un qui doit gagner, qui n'est pas vous. Bon, quelquefois on n'y va pas, quelquefois on y va quand même, en disant ils sont peut-être plus équitables qu'en d'autres circonstances. Mais le concours avec présélection est devenu le concours sans comparution devant le jury, présélection et sans comparution devant le jury, est devenu une guillotine sèche dans laquelle... Le concours, c'est quand même un procès. Vous ne savez, en dépit des promesses de très nombreuses ministres de la Culture, à commencer par Catherine Trautmann, qui promettait que, comme dans tous les pays européens civilisés, il y aurait un compte-rendu de cela. On l'attend toujours. Vous recevez une lettre. Du reste, quand vous êtes refusé dans une présélection, je pourrais vous montrer un catalogue entier de ces lettres, vos références et votre style ne conviennent pas à l'objet du concours. Bravo. Ou alors, quand vous êtes rejeté, si par malheur vous avez été accepté, vous recevez une lettre, le jury n'a pas choisi votre projet, vous pouvez faire un recours devant le tribunal administratif. Bon, vous pouvez vous suicider, quoi. Donc, ce système est assez peu satisfaisant.
Mais que faudrait-il faire, là ?
Je crois que tout système unique est un système qui vise à la globalisation et dont le terme, dont l'équivalent phonétique est quand même totalisation, voire
totalitarisme.
Voilà, totalitarisme. Aucun système ne peut rendre compte de la diversité des situations. On ne peut pas, sur le même système, faire une école communale de 3 classes dans une... un bourg perdu, réparer une grange avec génie, quelquefois, se présenter pour le concours du ministère des Finances ou construire des logements HLM dans la banlieue parisienne. Qu'il y ait des procédures de sélection, c'est certain. Est-ce qu'elles doivent être les mêmes pour tous ces sujets ? Je n'en suis pas persuadé. Et quand même, il faut aussi, si l'on veut donner de la vertu dans son sens antique, à ces procédures, il faut laisser au maître d'ouvrage le droit, de temps en temps, de choisir l'architecte de leur choix, même si c'est leur cousin et même si c'est leur neveu. Parce que il vaut mieux laisser ces portes de sortie que de truander des procédures qui ne sont pas faites pour ça.
Oui, mais le bâtiment, quelle que soit sa taille, se voit et vu par tout le monde.
Oui.
Alors, par exemple, il y a des appartements qui sont merveilleux de l'intérieur, mais si c'est pas très beau de l'extérieur, quand même, on attaque la vision, le regard de millions de personnes qui...
Oui, mais
s'y trouve pas.
Attendez, le concours tel qu'il est devenu, vous parlez des logements. Aujourd'hui, quand vous faites un concours de logement, l'image extérieure, la perspective extérieure l'emporte sur la qualité du logement. Vous êtes choisi sur une perspective extérieure. Et la qualité de l'informatique aujourd'hui fait que ces perspectives sont plus vraies que la réalité. On ne sait pas si c'est une photo retouchée ou si c'est la photo d'un bâtiment déjà exécuté ou si c'est un projet.
Avec des gens très joyeux devant qui passent
toujours,
comme ça, avec leurs petits chiens,
voilà,
ravis.
Toujours.
Et quand vous bâtissiez quand vous vous intéressiez à la maison Steckermann.
Sterkemann,
Paul Chemetov. Premier projet.
C'est une histoire très curieuse. Je rencontre les Sterkemann par un ami commun qui avait réparé leur maison en Ardèche et qui allait réparer la mienne. Nous sympathisons et en un premier temps, ils me demandent de leur faire un projet de maison qui n'aboutit pas. Et après, il me dit, mais avec prescience, les caravanes ont une fin. Peut-être qu'il faudra que nous vendions des maisons sur catalogue que les gens prêtent à finir. Un noyau que les gens pourront distribuer ou équiper d'une façade à leur goût. Et donc, on décide de faire cette maison prototype pour assez peu d'argent, pour très peu d'argent. Et on fait un noyau en béton dans lequel est le sanitaire et autour, une structure en acier que l'on remplit avec des parpaings peints ou goudronnés au noir. Et elle est là encore, elle a été classée, elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et elle a reçu une adjonction, avec l'aide d'Alexandrine Sterkemann, qui est la fille des Sterkemann, qui est devenue architecte grâce à la maison, et peut-être grâce aussi à un passage quelque temps dans mon atelier, et qui a fait ce conteneur en bois qui est accolé à la maison. Et c'était très curieux, parce que comme la maison avait été classée monument historique, on voulait nous empêcher de l'étendre nous-mêmes. Donc il a fallu expliquer qu'on en avait le droit moral.
Mais c'est-à-dire que ça a été multiplié ou c'est une seule
maison? Ah non, c'est une seule.
Ah oui, parce qu'on parle des maisons Sterkemann. Non, c'est la maison.
La maison Sterkemann.
Ah oui.
C'est un prototype, mais qui restait à l'état de prototype.
Et pourquoi ça pourrait se multiplier?
Mais on pourrait, sur la base de ce prototype, faire une quantité d'autres maisons.
Oui. Cela dit, la multiplicité ou l'amoncellement, enfin voilà, une rue qui ne serait faite que de maisons Sterkemann serait peut-être...
Oui, mais
pas très belle, alors que des maisons Sterkemann isolées, comme ça, c'est magnifique.
Ce n'est pas forcément vrai, parce que quand vous voyez certains lotissements belges ou anglais, les maisons sont assez semblables, et les clôtures comptent énormément. Comment est faite la rue, comment sont plantés les réverbères, comment sont les arbres, quelle est la qualité des revêtements. Si vous voulez, une rue, vous l'indiquez, c'est d'abord une rue, avant que d'être les maisons qui l'abordent.
Oui, mais faut-il vous donner... Est-ce que vous aimeriez, Paul Chemetov, qu'on vous donne comme ça 500 hectares là, vous seriez urbaniste, architecte, maître d'ouvrage.
Pas à cette échelle-là, mais...
Créer une ville.
J'ai quand même mené des opérations d'urbanisme qui sont toujours en train. À Amiens, qu'on a commencé en 2003, Gare-la-Vallée, qui s'appelle aujourd'hui la Vallée idéale, que nous poursuivons maintenant avec Ronald Sirio, mais que j'ai commencé il y a déjà 16 ans, à Montpellier, la gare Saint-Roch,
Et puis la Méridienne aussi, c'est quoi ça là,
La Méridienne, c'était comment célébrer l'an 2000 et en France, on se réveille toujours tardivement. Donc en 97, les autorités françaises se rendent compte que l'an 2000 approche et qu'il faut le célébrer. Et on réunit tout un aéropage de gens savants à la Sorbonne. Je ne sais pas pourquoi je en fais partie, avec Henri Gaudin. Et je dis une chose de bon sens qui doit frapper les gens. Il est trop tard pour construire. Et de toute façon, on ne va pas faire mieux que la Tour Eiffel. Donc ne construisons pas. Plantons plutôt. Oui. Pas encore de construire, mais planter à cet âge. Cette idée est acceptée. Et l'idée d'un... Puisque le méridien de Méchain, qui a permis la mesure de la Terre, a été tracé de Dunkerque, en fait, à la frontière espagnole, à Prats de Molló. Donc, sur cette ligne, planter tous les 100 mètres un arbre, et de temps en temps mettre une borne, ou en bordure des autoroutes, on voit encore des pancartes, la méridienne verte. Quand on passe du côté de Bourges, par exemple, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et du côté d'Amiens aussi, on retrouve ça. Et donc, on a fait cela avec l'aide d'une dizaine de paysagistes. Et c'était plutôt une réussite.
Vous travaillez avec des paysagistes, vous travaillez aussi avec... Vous avez travaillé aussi avec René Alliot. Et René Alliot, on va l'entendre bientôt dans une émission qui avait été diffusée dans les après-midi de France Culture en 1976. C'était à l'occasion du film, non pas du tournage, mais de la première projection du film « Moi, Pierre Rivière, ayant tué, etc. » Et donc, on entend René Alliot et Michel Foucault sur les lieux du tournage du film. Alors, René Alliot, c'était à la Grande Galerie de l'Évolution.
Oui, René Alliot a eu un rôle très important. J'étais associé avec Borja Huidobro pour faire ce projet, mais René Alliot...
Je vous ai laissé prononcer le nom.
Oui.
Borja
Huidobro, oui. Qui est un architecte d'origine chilienne avec lequel j'ai travaillé au ministère des Finances et au Muséum d'Histoire Naturelle, comme à l'ambassade de New Delhi. Et René Alliot, que nous avions rencontré, il était à cette époque... le décorateur attitré de Planchon à Villeurbanne. Et nous avions sympathisé. Il avait été mon conseil déjà pour le théâtre d'Amamet. Il a eu un rôle fondamental de scénographe. Et bien entendu, quand il s'agit de faire la galerie d'évolution, je lui ai demandé d'être à nos côtés. Et il a immédiatement prononcé un mot qui me plaisait, parce que c'était, au fond, ma façon de concevoir ce projet. Il y a des muséums d'histoire naturelle qui sont très hollywoodiens, celui de New York en particulier. Et René Alliot a dit une chose, l'allusion, pas l'illusion. Et je pense que c'est la réussite du muséum et de la caravane des animaux, auxquels il a grandement contribué, sont une démonstration de ça. Il n'y a pas de faux rochers en plastique, les singes font des exercices sur des agrès et non pas sur des faux arbres. Les ours polaires sont sur des glaces brisées, mais de la glace au sens vitre.
Mais n'empêche que quand on pense à une girafe en plein Paris, une girafe non vivante, oui. On pense à vous, on pense à la Grande Galerie d'Évolution. Quand on pense à une arche dans la Seine, il n'y en a pas 36, oui, oui. On pense à vous, Paul Chemetov. Quand on pense à... Alors quand on pense à l'ambassade de New Delhi, si on ne l'a pas vue, on ne sait pas que c'est vous. Mais comment ça s'est passé?
Ah, ça c'est plutôt...
Un concours?
C'est un concours.
Vous êtes allé voir l'architecte, je crois. C'est ce que vous dites en tout
non,
cas.
Non, je suis allé voir l'ambassadeur.
Ah, l'ambassadeur, oui, l'architecte.
On sortait d'un concours qu'on avait perdu sur le Centre culturel français à Lisbonne, où nous avions fait, je crois, un excellent projet, très, très intuitif, très subtil, mais nous n'étions pas allés voir l'ambassadeur.
Erreur.
Donc j'ai appris ça à mes dépens. Et la première chose qu'on a faite quand on avait été choisi parmi d'autres pour faire l'ambassade de Delhi, c'est d'aller voir l'ambassadeur. Je crois que ce n'était pas qu'une démarche de courtisanerie, parce que la conversation qu'on a eue avec lui nous a aidés à comprendre ce qu'était une ambassade, et ce qu'était une ambassade de France en Inde. Et en plus, on a été assez fascinés par l'architecture moghole et par l'architecture coloniale anglaise. Delhi était quand même une réussite absolue sur le plan de l'urbanisme impérial, où le travail de Lutyens et de Baker, on le voit encore, enfin, la croissance récente de Delhi met à mal tout ça, mais quand nous avions construit l'ambassade, les influences moghols, la trace anglaise, tout ça nous portait, si vous voulez, et nous avons fait cette ambassade en référence à tout cela, en pierre, en grès rose et en grès blanc, avec des marbres, enfin, il y avait une main-d'œuvre innombrable, et donc on a fait un travail de pur artisanat, qu'il faut certainement, maintenant c'est de 85, qu'il faut, le temps a passé, il faudrait certainement réintervenir sur l'ambassade aujourd'hui.
Paul Chemetov, vous nous avez dit en première partie que votre langue maternelle, c'était le russe. Vos parents sont arrivés de l'un et l'autre de Russie. Et on a entendu dans la première partie donc une leçon de russe donnée par, sur France Culture, enfin sur France 3 nationale à l'époque. Un petit peu lente, comme ça, mais enfin, après tout, il faut, quand on apprend aux adultes, c'est plus difficile que, sans doute, que...
Mais parlez-vous français comme ça? Jamais!
Oui. Mais écoutez, ne vous moquez pas, Paul Chemetov, et vous allez tendre l'oreille et écouter un auteur russe, dont, voilà, vous m'avez parlé très rapidement quand on a bâti votre nuit rêvée. Et d'ailleurs, on va entendre une pièce de Tchekhov, dans quelques... une heure, deux heures, Ivanov, avec Michel Vitold et Michel Galabru, une diffusion de 1966 sur France Culture, Ivanov, Anton Tchekhov, mais l'écrivain que vous allez entendre, alors là encore une fois, tendez vraiment l'oreille, et que vous allez traduire pour nous par la suite, puisque vous parlez parfaitement le russe. Alors,
parfaitement, non, je parle russe.
Vous le comprenez, vous pouvez nous traduire.
Oui, évidemment.
Alors, écoutez cet écrivain.
Был один человек богат, но потом стал беден. Напали на него всякие несчастья. Сначала сгорел его дом, потом подохла его скотина. Пошел он работать в город и там попал к недоброму хозяину. Работал, а когда пришло время к расчету, у хозяина оказалось нет денег, нечего платить. И ушел он отсюда без денег и прожил все, что на себе было. Так прожился. Не на что было купить воды. И шел домой босиком. И сел он на дороге и стал жаловаться Богу. За что, говорит, мне такие несчастья? Нет таких из человека несчастье меня. И вдруг видит мимо его, идет по дороге человек без ног, на одних коленках. И подумал он, мне нечего одеться, нечего обуться, а ноги есть, а у этого и ног нет. Стало быть, несчастье меня.
Oui, alors, la qualité de l'enregistrement est épouvantable. En gros...
Alors c'est le comte Léon Tolstoï, hein, quand même.
Oui,
c'est pas rien,
oui,
en 1909.
Oui, mais il meurt l'année d'après.
Oui.
Donc il est très très vieux. Bon, et... Mais en fait, c'est une histoire d'un ouvrier qui travaille pour un patron, et le patron ne le paye pas à la fin. Et il s'en va sur la route, déguenillé et sans chaussures, et il rencontre... un cul-de-jatte sur un espèce de petit truc à roulette, et il se console en disant « Je n'ai pas de chaussures, je n'ai pas de vêtements, mais j'ai au moins des jambes. » Voilà. En gros, c'est cette fable. Mais faudrait que, pour la traduire mot à mot, de bout en bout, faudrait que je réécoute cela plusieurs fois, et moins fort. C'est un peu fracassant.
Bon, écoutez, je vous enverrai une copie plus tard, Paul Chemetov. En tout cas, bravo, vous avez traduit. Donc, quand même, le comte Léon Tolstoï en 1909, on a peu d'enregistrements de célébrités comme ça de ces époques-là. Il y a des gens qui sont
morts. C'est encore un rouleau à cire, je pense.
Oui, sans doute. Alors, pour l'information, la copie INA nous indique que c'est une copie d'une bande de Radio Moscou confiée par Alain Truta, qui était un grand producteur de France Culture, et rendue après copie, donc 1909, enregistrée au profit de l'Union de la presse périodique en Russie. Et en effet, il est mort en 1910, donc quelques mois après cet enregistrement. Mais ça sera donc Tchekhov. Dans Paul Chemetov, être architecte, donc dans vos réunions, vos rencontres avec Frédéric Laine, publié chez Arléa, vous parlez à un moment donné de vos lectures. Il y a des lectures, il peut y avoir Stendhal, Proust, mais il y a aussi beaucoup d'écrivains russes.
J'ai comme tout le monde, j'ai lu Guérépé, évidemment. Mais j'ai lu avec, et surtout, je suis allé à d'innombrables représentations de Tchekhov. Mon père me disait qu'on était apparenté à Tchekhov. Ça doit être vrai, puisque mon père le disait. Enfin, c'est un cousinage lointain. Mais on est strictement de la même région, c'est-à-dire que il est né à quelques distances, à une quarantaine de kilomètres de Rostov, pas loin du lieu de naissance de mon père. Donc c'est probable.
Vous n'avez pas de rapport avec la Bretagne, Paul Chemetov?
Non,
en tout cas, vous m'avez demandé d'entendre Mona Azou.
Ah oui, mais pour une autre raison.
Parlant de la Bretagne.
Parce que, et on l'entendra. D'abord, j'ai une très grande admiration pour son intelligence et sa rigueur intellectuelle. Et quand elle parlait de la langue bretonne et de la langue française, cette espèce de double jeu m'évoquait ce que j'avais moi-même connu entre ma langue dite maternelle, le breton, et la langue apprise, la langue savante, le français, que elle et moi, nous maîtrisons plutôt bien.
Et doublé pour, en ce qui la concerne, par l'école de Dieu et l'école du diable.
Ah oui, oui.
Donc, vous n'avez pas connu ça, vous,
non,
enfant.
Moi,
c'était simplement le russe à aller à chez vous.
Oui.
Et le français à l'école.
Le russe doublement chez moi, parce que, avant-guerre, évidemment, tous les amis de mes parents et mes camarades les plus proches étaient russes. Il y avait quand même 80 000 russes blancs en France, et pour la plupart concentrés à Paris. Et pendant la guerre, comme nous étions, mon père a eu la bonne idée de nous expédier à Châteauroux, ce qui nous a certainement protégés, et nous sommes restés reclus sur nous-mêmes. Mon père avait décidé que nous n'allions pas au cinéma, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire, nous lisions, nous jouions aux échecs et nous parlions russe. Donc j'ai pratiqué le russe intensément jusqu'à 15-16 ans.
Vous avez souhaité aussi, Paul Chemetov, entendre Jean Prouvé,
oui. Et
on l'entendra dans une émission qui s'intitule « Quand le bâtiment va », animée par Frédéric Potcher, que vous connaissez peut-être comme chroniqueur judiciaire,
oui,
enfin,
oui.
Voilà, qui animait beaucoup d'émissions de radio sur différents sujets, dont celle sur le bâtiment. Et l'émission étant diffusée en 1955, donc on est encore dans la reconstruction, il recevait Jean Prouvé et Michel Bataille. Donc Jean Prouvé,
que j'ai connu, avec lesquels j'ai travaillé,
oui.
Qui est un homme pour lequel j'ai un énorme respect, qui est quand même un inventeur de tas de formes aujourd'hui, des chaises, des tables, des panneaux de façade, une façon de plier l'acier, des maisons pour l'Afrique qui n'ont jamais eu de succès. Toutes ces tentatives de série n'ont jamais débouché par opposition, une espèce de très vieille opposition du béton et de l'acier et de l'aluminium en France. Le béton l'a emporté en France. Et aussi par une mise sous tutelle de cet inventeur, de cet expérimentateur de génie, par l'aluminium français qui n'a plus souhaité que Prouvé continue à inventer à chaque projet une nouvelle façon de plier l'acier, de faire un prototype. Prouvé a influencé énormément des gens comme Piano et d'autres, mais j'ai fait plusieurs bâtiments avec lui, notamment il a participé à un bâtiment qui vient d'être démoli, il a fait tout le rez-de-chaussée d'un bâtiment à Saint-Ouen, qui était un foyer de jeunes travailleurs. Et des gens, après l'avoir démoli, quand on leur a dit que la valeur des panneaux qu'ils avaient fait envoyer à la casse en salle des ventes, ils se sont dit « aïe, 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 on aurait dû y penser ».
Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, Paul Chemetov, comme ça, une ville nouvelle, alors encore faudrait-il trouver le bon endroit en France, qui serait finalement un lieu où aboutiraient tous les projets refusés, inaboutis, des projets de qualité, bien entendu, sinon c'est pour faire une ville difforme et bizarre. C'est pas comme ça que...
Ce que vous appelez s'appelle une... Ce que vous décrivez...
L'utopie...
S'appelle une exposition universelle, où chaque pays fait assaut d'inventions et quelquefois des morceaux d'exposition universelle restent...
Telle la Tour Eiffel, entre autres.
Oui, mais une ville ne peut pas être une collection d'objets divers, si vous voulez. Le premier principe d'être en ville, être en tenue de ville... Être en habit de ville, c'est pas d'être déguisé comme pour une soirée à Vayennes dans un club Med, si vous voulez.
Vous allez souvent, sans doute.
Je vais très rarement. Ça m'est arrivé, je crois, une seule fois d'aller voir à quoi ça ressemblait. Mais c'est remarquablement réfléchi. Mais ce n'est pas un modèle d'urbanité, c'est un modèle d'entracte. C'est fait comme un entracte. Une ville, c'est pas un entracte. C'est une continuité. C'est un passage de témoins. C'est une contiguïté.
Et vous dites quelque chose d'étonnant, Paul Chemetov, dans ce livre. Vous dites ce que j'ai dit ou écrit, j'imagine, à différentes époques est peut-être moins daté que certains de mes bâtiments qui sont forcément contingents.
Oui. Contingents, comme disait Sartre. Contingents parce que mes bâtiments sont toujours... L'écriture, bon, elle évolue, c'est certain. Qui aujourd'hui écrit comme Diderot, qui écrit aujourd'hui comme Stendhal, qui aujourd'hui écrit comme Proust? Personne. Mais les mots sont strictement les mêmes. Les règles grammaticales ont assez peu évolué, mais les assemblages ont évolué à partir d'une même matrice. Dans le bâtiment. Les techniques, faire la langue du bâtiment, les systèmes proportionnels, il est le même que de tout temps, si vous voulez, quand vous évoquiez la solidité, la beauté et l'utilité antique.
Romaine,
on les retrouve aujourd'hui. Mais les moyens de concrétisation entre un bâtiment que j'ai fait il y a 50 ans et aujourd'hui ont profondément changé, si vous voulez. Il y a des choses que l'on pouvait faire. Je montrais à un de mes amis, en Altirio, la façade d'une médiathèque que j'avais fait dans les années 2000. Et il me dit, les entreprises ont bien changé. C'était des plaques de plâtre fines, tenues par des câbles, et qui pouvaient pivoter, et qui donnaient une lumière, comme une lumière d'albâtre, très très belle pour une bibliothèque. Je pense que ce n'est pas que les entreprises qui ont changé, c'est aussi la qualification... de toute la chaîne de maîtrise d'œuvre qui a changé. C'est-à-dire la capacité de projeter ça, d'imaginer ça, ingénieurs, architectes réunis, est moins grande aujourd'hui qu'il y a peut-être du temps des ingénieurs qui sortaient de Beaubourg, si vous voulez. J'ai fait ça avec des ingénieurs qui sortaient de Beaubourg et qui avaient fait leurs armes, là. Mais des choses qui disparaissent, si vous voulez, telle brique disparaît, telle fenêtre en bois disparaît au profit de fenêtres en PVC, en plastique ou autre. C'est ça la grande difficulté. Je raconte toujours, un jour j'ai visité les communs de Versailles et je m'aperçois qu'il y a des l'électricité encastrée dans les murs en enduit. Et je dis au guide, mais c'est quoi cette chose? Vous allez quand même faire croire aux enfants que l'électricité était inventée sous Louis XIV. Si vous la rapportez, montrez-la comme une pièce rapportée et indépendante, avec des tubes actuels montrant que c'est un autre temps, une autre technique. C'est vieillissement.
Allusion et pas illusion.
Voilà.
de nouveau.
Voilà, allusion et pas illusion.
Oui, mais ça serait très vilain de montrer qu'à Versailles, on voit des tubes en néon.
Non, mais je parle des communs de Versailles.
Des communs, alors ça va.
Oui.
Non, mais vous-même, quand vous vous promenez en permanence, comme ça, j'imagine, dans Paris, et vous en permanence...
Je regarde.
Vous regardez les façades, les...
Tout. Comment c'est fait?
Vous critiquez?
J'admire aussi.
Vous lancez des petites pointes, quand même, dans votre livre, là.
Non, mais évidemment. Comme on est sans pitié avec moi, peut-être c'est au fond assez médiocre. Je suis quelquefois sans pitié.
Mais vous dites qu'on est sans pitié avec vous. C'est quand même quand on cite 3 ou 4 architectes français, on cite. Vous êtes dans la liste tout de suite, Paul Schaeffer.
Ah oui. Ah bon.
Ah bon. Vous saviez pas.
Non. Non, je ne pense pas être dans la liste des 4.
je vous dis que vous êtes dans la liste des 4. Quels seraient les 3 autres, alors?
Mais d'abord, il y a le Pritzker.
Vous ne l'avez pas eu, mais peu importe.
Oui, mais ça change tout. C'est une reconnaissance. Non, mais si vous voulez, c'est comme quand vous avez le prix Nobel, c'est différent d'avoir le prix de l'Académie ou le prix Goncourt. C'est d'un rang supérieur. Puisqu'on parle de grade, de chin, comme on disait en Russie, de la nomenclature, mais comme on disait dans une autre Russie.
On peut se remettre quand même de ne pas avoir le prix en question.
Vous voyez, je vais très bien, je vous parle, et je suis très content de notre conversation.
Et puis le Grand Prix d'architecture, c'est
bien.
C'est pas rien quand même.
C'est bien. Ouais. C'est bien.
Alors donc, les petites pointes, les petites vacheries, elles sont contre qui?
C'est pas des vacheries.
Non.
Ce sont des pointes.
Des pointes.
Non. J'essaie de toujours de ne pas me limiter à un discours de l'extrême nouveauté. Nous, je crois que on a une réponse. L'architecture, je suis pas le premier à le dire, est un art social. Et l'architecture, en ville, est un art qui est conditionné par la commande. Vous pouvez peindre librement un tableau, sauf à construire une maison pour vous, et encore, c'est pas vous qui la construisez, il faudrait que vous la construisiez de vos propres mains. Qui fait cela? Personne. Donc, vous passez toujours par la médiation, quand vous êtes architecte, des entreprises qui exécutent, de la commande qui vous est donnée, des normes qui vous sont imposées, des normes sociales, de l'argent qui vous est confié. Donc, vous voyez bien que chaque fois, c'est une herse qui tombe sur vous. Et réussir à franchir tous ces obstacles, comme dans une course hippique, et arriver premier en tête, c'est un bel exploit.
Mais c'est vrai qu'on peut écrire un roman dans son coin et le donner tel quel à un éditeur qui le publie, et voilà, rien n'a été changé.
Quand un éditeur est bon, il oriente le roman.
Certes, mais il y a beaucoup moins d'interventions que pour un projet architectural.
Ah oui, c'est certain.
Les enjeux financiers sont incomparables.
Mais quand vous voyez, par exemple, un manuscrit de Proust, et les perpétuels rédits, les petits collages...
Oui, mais c'est lui, ça, qui...
Vous ne pouvez pas corriger. Une fois que votre bâtiment est lancé, il m'est arrivé de détruire un bout de bâtiment, certainement inspiré par l'exemple de Niemeyer, qui avait découpé un patio au marteau-piqueur. Il m'est arrivé de découper un bout de bâtiment.
Ça
m'est
arrivé. Où donc?
Du côté de Reims, qui était plutôt raté. Mais je l'ai fait une fois dans ma vie, si vous voulez. Parce que c'était vraiment trop mal fait. Mais il faut toujours accommoder les restes dans la construction. Quand un type rate une implantation, du reste, quand vous parlez des tolérances dans le bâtiment, c'est plus 2, moins 2 centimètres pour le béton. Vous voyez bien que des mouvements de 4 centimètres, mais j'ai vu des voiles de béton implantées à 10, 20 centimètres de leur position initiale, et vous devez rattraper ça, vous devez trouver quelque chose, vous devez trouver des jointures qui paraissent évidentes, faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais tout ça c'est assez passionnant en fin de compte. Et sans ça, ce serait un métier de pure exécution d'un ennui mortel.
Et quand vous êtes devant des ruines, Paul Schaeffer, vous êtes aussi excité intellectuellement, artistiquement, que quand vous êtes devant un bâtiment?
Enfin, il faut savoir une chose. Tout bâtiment va vers sa ruine s'il n'est pas reconstruit de sa route. Si nous voyons Chartres, Versailles ou le Parthénon, c'est qu'ils sont de façon permanente reconstruits, consolidés. Ça va être le problème de Notre-Dame à la suite de Vieux-les-Ducs. Mais si Vieux-les-Ducs ne s'était pas occupé de Notre-Dame, il n'y aurait plus Notre-Dame aujourd'hui. Donc, la ruine et la tendance naturelle de nos bâtiments. Évidemment, ce qu'apprend la ruine, quand vous regardez attentivement une ruine ou un bâtiment abîmé après un incendie, vous en voyez quelquefois l'essentiel. C'est-à-dire, vous voyez ce qui est...
À l'origine du projet.
Ce qui est, lorsque vous voyez un squelette de cachalot au Muséum d'Histoire Naturelle, vous imaginez la bestiole qui est autour. Vous devez l'imaginer. Mais sans le squelette, vous n'auriez aucune idée de la forme des muscles, des peaux, des viscères qui sont... Vous voyez cette ossature, cette ruine qui permet le vivant ultérieur. Et c'est un peu la même chose dans une ruine architecturale. Ça vous aide à comprendre quelquefois, quand elle est encore... Il y a des ruines de guerre qui sont épouvantables, on en voit des photos actuelles dans les guerres actuelles au Moyen-Orient. Ce ne sont plus des ruines, c'est Verdun, si vous voulez.
Non, mais là, il y a la trace de l'humain récent, enfin, oui, du mort, oui. de la personne qui souffre dans ces ruines de guerre.
Certaines ruines de temples grecs, Pestum et autres, ou même les ruines de Palmyre avant qu'on s'occupe de les détruire, ou de Baalbek, c'était quand même... les ruines que j'ai vues de l'architecture moghole, c'était pas mal.
Mais que ferait-on de Paestum? On ne va pas reconstruire Paestum?
Non, mais ça vous donne une idée de la nécessité et de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Quand vous grattez, grattez jusqu'à l'os, on dit. Voilà, grattez jusqu'à l'os. Quel est l'os? Quelquefois, il y a des projets. Si vous voulez, vous avez des projets aujourd'hui, vous me dites que je suis plein de pics. Mais vous grattez certains projets contemporains, il n'y a pas d'os derrière. Il y a des peaux extrêmement chatoyantes, mais ils n'ont aucune ossature, aucune structure. Pas seulement une structure physique. Quelle est leur structure mentale de référence? Ils sont chatoyants.
Mais peut-être les architectes que vous citez dans le livre, mais qu'on ne citera pas et que les auditeurs trouveront facilement, trouvent qu'il y a un os. Enfin, dans le sens, il y a une ossature, il y a un squelette.
Il faut
tout un discours sur l'architecture qui permet de s'en sortir perpétuellement, quand même.
Oui, mais vous ne faites pas l'architecture pour vous-même. L'architecture, c'est ce qui devrait rendre les architectes un peu plus humble, en général. C'est un art de commande, c'est un art contraint, et c'est un art dans lequel... on a une position très, très compliquée. Vous êtes censé, avec vous-même, votre ego, votre égoïsme, votre égotisme, travailler pour les autres. Et d'autres, qui sont des humains comme vous, mais qui n'ont pas la même connaissance de comment on travaille l'architecture, ni même comment on construit un bâtiment. Donc, cet écart, si vous ne mesurez pas de façon constante, si vous ne savez pas que vous travaillez pour les autres avec des moyens et des ressources qu'ils n'ont pas tous, mais vous devez quand même leur être sympathique, non pas par charité, par distribution de dons, mais par respect humain, si vous voulez. Il faut toujours imaginer que l'on va habiter les logements que l'on dessine. Moi-même, j'habite un logement qui est bâti sur des normes H&M, avec des crédits HLM, l'équivalent des crédits HLM, puisque c'est un bâtiment privé. Mais évidemment, ce que j'ai fait ne serait... dans l'étage que j'occupe, les plafonds en béton sont apparents, les fers sont apparents, tous les autres étages qui sont occupés par d'autres personnes, il y a un sous-plafond en dessous. Mes conduites électriques sont apparentes, les conduites électriques de mes autres...
Contrairement au commun de...
Et ils ont leur conduite électrique cachée, etc. Mais je peux me permettre, pour moi, des fantaisies que je n'imposerai pas aux autres.
Et quand vous voyez des, parce que vous voyez des bâtiments, Paul Chemetov, ça c'est facile quand on se promène dans une ville ou à la campagne, mais on voit aussi beaucoup d'humains. Est-ce que vous les voyez, est-ce qu'il y a un regard d'architecte sur les êtres humains? Je vous demande pas de voir si vous voyez le squelette, mais...
Oui, mais sur les êtres humains...
L'architecture du visage, du corps...
Comme ils sont, j'étais toujours frappé, si vous voulez. Je vais assez généralement, quand on m'invite aux réunions de locataires, ou réunions même de copropriétaires, et j'entends ce qui se dit. Je me souviens toujours d'une réunion où des gens se plaignaient de qu'il y avait une fuite sur leurs fenêtres. Et tout à coup, au bout de, je sais pas, près d'une heure de discussion, une voix s'est élevée dans le fond de la salle et il a dit « Je suis allé au BHV, j'ai acheté pour 4 sous de mastic et j'ai réparé ma fenêtre. » Et une autre fois... j'entends une personne qui me dit « Mais comment se fait-il qu'il y ait une fissure sous ma baignoire ?» D'abord, que faisait-il sous sa baignoire ? Et je lui ai simplement répondu « Croyez-vous que ce soit une position commode pour un plombier de travailler sous une baignoire ?»
Étrange. Bon, votre nuit rêvée, Paul Chemetov, se poursuit, donc avec moi, Pierre Rivière, etc., une émission de Paul Ajac. Puis, on pourra entendre intégralement Ivanov d'Anton Tchekhov avec Michel Vitold et Michel Galabru. Un entretien de Mona Ozouf avec Jean-Maurice de Montremy en 1998 dans À voix nue. Et puis on terminera par Quand le bâtiment va, par Frédéric Potcher avec Jean Prouvé et Michel Bataille.